RCF.
Je crois qu'ils étaient troublés de ne pas retrouver le journal de Radio Vatican, mais Radio Vatican est déjà en grille d'été, il n'y a donc plus de journal à 18h. Bienvenue, vous êtes sur RCF, le 18-19 en région, lui continue. Voici Alexis Claudretz.
Et sur RCF, en Sardaigne, RCF Cœur de Champagne, nous ne sommes pas encore en grille d'été. On a la joie de pouvoir vous accompagner jusqu'à la fin de cette semaine. Au programme de cette émission, des historiens qui seront là, et notamment un, Jean-François Boulanger, que l'on retrouve pour sa chronique Mémoire chrétienne. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous nous aviez promis il y a quelques temps une suite sur Mère Teresa. Vous allez nous parler de cette personne bien connue des auditeurs de RCF et son lien avec l'Inde plus particulièrement.
Oui, absolument. La dernière fois, on avait parlé un peu de la naissance de Mère Teresa et de la manière dont elle était revendiquée à la fois par l'Albanie et la Macédoine du Nord, ben maintenant on va la voir arriver en Inde.
On vous retrouve
voir ses rapports avec l'Inde.
On vous retrouve d'ici quelques secondes pour en parler, Jean-François Boulanger. J'ai dit des historiens parce qu'on a une passionnée d'histoire qui sera avec nous, Annick Demuy, engagée dans l'association Art et Foi. Elle sera avec Jean-Luc Gesson au micro de Jean-Pierre Benoît pour évoquer les vitraux de Chagall. Le député de la deuxième circonscription des Ardennes, Pierre Cordier, sera notre invité dans cette émission juste avant le journal régional de 18h30, dans lequel on développera quelques titres et notamment les résultats du baccalauréat 2022. Les résultats du premier groupe sont tombé au niveau national, 84,9% des candidats sont admis. C'est un chiffre en léger recul par rapport à cette année, à l'année, pardon, 2022. On sera également avec Virginie Jama pour nous présenter le BTS de la Digital Academy. Elle est responsable du dispositif Digital Academy au sein d'Almea Formation. Et puis on fera un zoom sur le pèlerinage de Lourdes de Cancer Espérance. Il est organisé au mois de septembre par l'association Marnaise. Il sera présenté par Daniel Machet. Voilà pour les titres de ce magazine régional. À noter que pour les fans de sport, la nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes. Le club sportif Sedan Ardennes, qui initialement avait été rétrogradé en National 2 par la DNCG, eh bien, le gendarme financier du football a infirmé sa décision, non pas pour maintenir le club en National, mais pour l'exclure de tous les championnats nationaux. Le club est donc relégué en Régional 1, la 6e division du foot français. À voir ce que cela cache, peut-être un départ du président Marc Dubois. Pour l'instant, ni le club, ni l'homme fort du CSSA se sont exprimés. 18h13, voilà ce qui nous attend donc ce soir jusqu'à 19h. Et nous, on commence pour un épisode de Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger. Bonjour.
Bonjour.
Mère Teresa et l'Inde, elle a été canonisée en 2016, Mère Teresa. Ainsi a-t-elle été reconnue par l'Église universelle. Cependant, si elle a désormais sa place dans la mémoire de l'Église catholique, a-t-elle la même place incontestée dans la mémoire de l'Union indienne, Jean-François?
Alors, on va dire que Mère Teresa fait aujourd'hui débat en Inde. Il faut rappeler que l'Union indienne était dirigée au moment de la canonisation de Mère Teresa, et d'ailleurs est toujours dirigée, par Narendra Modi. Ce dernier dirige un parti nationaliste hindou qu'on appelle le BJP, et peu avant la cérémonie de canonisation, il avait déclaré le 28 août 2016, je le cite, « Au moment même où la sainteté a été accordée à Mère Teresa, qui a servi les pauvres d'Inde, tout au long de sa vie, il est naturel que les Indiens se sentent fiers. » Donc voyez, on peut dire qu'il y a une adhésion de Modi, le nationaliste hindou, à la personne de Mère Teresa, et d'ailleurs il avait été décidé à ce moment-là qu'une délégation gouvernementale indienne assistera à la cérémonie. Mais, quelque temps auparavant, une organisation qu'on va appeler le RSS, je n'ai pas donné le nom, donc en langue indienne, c'est assez compliqué.
On se contentera des initiales,
c'est plus simple. Le RSS, donc, qui est une organisation qui a été la matrice de ce nationalisme hindou, et je rappelle qu'hindou, ça fait référence non pas à la nationalité, mais à la religion hindouiste, et dont est issu à la fois celui qui, il y a longtemps, a assassiné le Mahatma Gandhi, et est issu également le Premier ministre Narendra Modi. Donc ce RSS avait accusé Sœur Teresa d'avoir été mue uniquement par la volonté de convertir les Indiens au christianisme. Je cite ce président du RSS qui s'appelait Mohan Bhagwat, « L'œuvre réalisée par Mère Teresa aurait pu être bonne, mais elle était menée dans un but précis, convertir au christianisme les personnes à qui elle venait en aide. » Et donc pour les nationalistes hindous, c'était quelque chose d'inadmissible parce que pour eux, l'hindouisme est le cœur de l'identité indienne et toutes les autres religions, présentes donc en Inde sont considérées comme étant étrangères à l'âme de ce pays. C'est le cas de l'islam, qui est un peu l'ennemi régional par le biais du Pakistan, mais c'est aussi le cas du christianisme, d'où toute cette ambiguïté à propos de la personne de Mère Teresa.
Mais alors Jean-François Boulanger, si vous me permettez l'expression, le christianisme est-il un corps étranger en Inde ?
Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre en deux mots, c'est loin d'être simple. Les chrétiens sont la troisième communauté religieuse de l'Inde, ils représentent 2,3% de la population, contre 80,5% pour les hindous et 13,4% pour les musulmans. Et 70% de ces chrétiens des Indes sont des catholiques, c'est-à-dire, selon le recensement de 2011, 16 millions. Le catholicisme est donc une religion minoritaire en Inde, mais une partie de ces catholiques sont issus d'une église en fait très ancienne, puisque selon la tradition, la première évangélisation aurait été l'œuvre de l'apôtre Thomas vers 52, donc après Jésus-Christ bien entendu. Il aurait visité la communauté juive de Cochin, donc en Inde, et aurait donné naissance à ce moment-là aux communautés chrétiennes du Kerala qui existent toujours. Et donc on prétend que son tombeau, qui n'a jamais été authentifié, se trouverait dans une basilique à Madras, toujours dans la même région, la basilique Saint-Thomas. C'est loin d'être sûr, donc, mais ce qui est certain, c'est que de cette tradition est issue une église qu'on appelle l'église Malabar, de rite Siro-Malabar, qui représente 23% des catholiques indiens. Et parce que cette église est de tradition syriaque, on pense aujourd'hui que l'arrivée de cette tradition chrétienne est probablement liée aux échanges commerciaux qui existaient entre donc le Moyen-Orient, la Syrie entre autres, et donc l'Inde. Donc l'église catholique Siro-Malabar, aujourd'hui dirigée par un cardinal, Georges Alan Chéry, qui a le titre d'archevêque majeur, un titre rare qui est accordé généralement aux responsables des églises orientales. Le premier à s'être vu accorder ce titre, c'est le responsable de l'église grecque catholique ukrainienne, donc en 1963, on a souvent parlé de cette église. Et puis ça a été le tour ensuite de cette église Siro-Malabar en 1992.
Cependant, selon les chiffres que vous avez donnés, cette église Siro-Malabar constitue seulement une minorité de catholiques indiens, Jean-François.
Alors effectivement, parce que une autre église catholique existe, cette fois-ci directement rattachée à Rome, l'église catholique romaine, qui regroupe aujourd'hui 70% à peu près des chrétiens indiens répartis en 128 diocèses. Et cette fois, c'est une église qui s'est constituée à partir du moment où les Européens sont arrivés en Inde. Donc là, évidemment, se pose la question de savoir si c'est un corps entre guillemets étranger. En tout cas, il est arrivé de l'étranger, il est arrivé avec Vasco de Gama, quand il est arrivé du côté de Cochin, et dans l'ancienne colonie portugaise de Goa, qui fait aujourd'hui partie de l'Union indienne, les catholiques constituent aujourd'hui 35% de la population. Et encore aujourd'hui, en dehors même des anciennes colonies portugaises, à Bombay, à Cochin ou au Bengale oriental, beaucoup de catholiques indiens portent des noms d'origine portugaise. Et à cette première strate du catholicisme romain en Inde, qui date donc du XVIe siècle en gros, viennent s'ajouter ultérieurement au XIXe siècle et au XXe siècle des convertis à l'époque de la colonisation anglaise. Beaucoup de ces nouveaux convertis du XIXe, XXe étaient d'origine intouchable, c'est-à-dire hors du système des castes. Et pour eux, c'était une manière d'échapper aux castes que de se convertir au catholicisme. Donc ces nouveaux chrétiens sont nombreux, voire majoritaires, parmi les groupes tribaux qui vivent donc à l'extrême nord-ouest de l'Inde et qui sont en fait totalement en marge de la société indienne.
Donc, un christianisme indien largement minoritaire, mais cette minorité dispose-t-elle d'une influence supérieure à son nombre, Jean-François ?
Vous avez totalement raison parce que, alors, faut d'abord dire que toutes les communautés chrétiennes n'ont pas la même respectabilité aux yeux des Indiens. Les plus estimées de ces communautés, c'est celles qui conjuguent la plus grande ancienneté et le plus haut statut social d'origine, les Siro-Malabar. On rencontre des chrétiens dans l'Inde entière, mais surtout dans le sud et dans le nord-est parmi les populations dites aborigènes, c'est-à-dire non-indiennes. Ils ont un rôle politique négligeable, par contre ils sont très présents sur le terrain social, notamment grâce à l'action des missionnaires et à l'expérience acquise par leur biais dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les écoles chrétiennes ont attiré au départ les enfants des classes sociales les plus favorisées. De très nombreux notables du pays sont d'anciens élèves des collèges chrétiens et les classes moyennes qui se sont développées récemment se sont également tournées pour partie vers ces écoles chrétiennes. Et d'ailleurs, Dans les annonces matrimoniales indiennes, quand on mentionne pour une jeune fille éduquée au couvent, c'est-à-dire étant passée par une école catholique, c'est très apprécié pour une future épouse. Et puis alors, il y a tout le système de santé indien, les hôpitaux, les dispensaires, qui est là aussi largement dominé par la communauté catholique. Et d'ailleurs, dans l'Inde entière, le métier d'infirmière semble être devenu une spécialité des chrétiennes du Kerala, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit laïque.
Alors pour conclure, Jean-François, lorsqu'elle arrive en Inde, Mère Teresa trouve sa place dans cette occupation du terrain social par les chrétiens.
Alors effectivement, d'ailleurs, quand elle arrive, elle travaille pendant quelques mois dans un dispensaire du Bengale, puis ensuite elle va travailler dans une école de Calcutta. Et en 1944, elle est nommée directrice des études de l'école de Sainte-Marie, qui est réservée justement aux classes supérieures de Calcutta. Alors, il faut savoir que ces activités sociales sont fort appréciées du reste de la population, mais elles supposent des investissements financiers considérables qui dépassent de beaucoup les capacités du pays et donnent une image de puissance des églises chrétiennes que certains de leurs membres regrettent et qui agacent les autres Indiens, notamment les hindous, parce que l'argent arrive souvent de l'extérieur par le biais des missions. Et c'est justement là, justement, que Mère Teresa va jouer un rôle important lorsqu'elle abandonne la direction des études de cette école Sainte-Marie. Et à ce moment-là, elle va se tourner vers les plus pauvres. Et c'est comme ça que se bâtit donc le personnage de Mère Teresa, tel qu'on l'honore, ou pas, selon les cas, donc dans sa mémoire. Et c'est ce que nous verrons peut-être la prochaine fois.
On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Jean-François Boulanger, pour en parler. Ça sera seulement avec les auditeurs de RCF Reims-Ardennes. Si ceux de RCF Cœur de Champagne veulent connaître la suite, eh bien ils pourront se connecter sur le site rcf.fr en rubrique réécoute, en restant tout à fait fidèles à leurs programmes locaux de 18h10 à 19h. Merci Jean-François.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
18h22, on est ensemble jusque 19h et pour l'heure, on rejoint le député de la deuxième circonscription des Ardennes, Pierre Cordier, avec nous par téléphone. Bonjour Pierre Cordier.
Bonsoir.
Pierre Cordier, il faut dire que l'actualité est riche en ce moment au niveau national. Vous-même, vous êtes en circonscription, vous êtes à l'Assemblée nationale, où vous trouvez-vous à ce moment même?
Ah bah écoutez, je suis à Paris effectivement aujourd'hui, donc c'est un petit peu bruyant autour de nous, mais effectivement mardi, mercredi, jeudi, c'est l'Assemblée nationale et c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait une actualité riche avec les événements que l'on connaît aujourd'hui dans toute la France.
Justement, avant même de vous demander ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale et quelle est la teneur des débats, Pierre Cordier, on a envie de vous demander, selon vous, une photographie de ce qu'il se passe, quel est votre ressenti sur cette situation alors que l'on est à une semaine d'émeutes partout en France maintenant, Pierre Cordier?
Écoutez, mon ressenti, vous l'imaginez bien, il n'est pas bon, que ce soit en tant que citoyen, mais également en tant qu'élu de la République, parce que c'est vrai que lorsque l'on constate tous que l'on brûle, que l'on casse, que l'on pille, aujourd'hui, enfin en tous les cas depuis un certain nombre de jours, je suis finalement très triste, mais aussi je constate finalement une part d'échec dans ce qui a été mené dans ce pays depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, et ça me rend triste parce que beaucoup de contribuables aussi ont fait des efforts pour payer beaucoup de choses dans un certain nombre de zones urbaines de notre pays. Les ruraux sont loin d'avoir eu toutes ces sommes pour équilibrer et aménager aussi leur territoire. Alors je ne veux pas opposer les urbains et les ruraux, bien entendu, les problématiques ne sont pas les mêmes, c'est quand même un sujet qu'il faut aborder, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent sur le terrain, ben nous, dans nos petits villages et dans nos petites communes, on est loin d'avoir eu les milliards qui ont été dépensés dans des zones urbaines ou suburbaines.
Et justement, cette deuxième circonscription des Ardennes que vous représentez, Pierre Cordier, elle a la particularité de couper la ville de Charleville-Mézières en deux, notamment, donc ça veut dire que vous êtes aussi concerné par cette population urbaine, même si on vous connaît plus, effectivement, sur le terrain, en ruralité.
Oui, c'est vrai que la ville de Charleville-Mézières est coupée en deux morceaux. Moi, j'ai tout le nord de Charleville, les quartiers de La Houillère, les quartiers de Manchester, une partie aussi du centre-ville de Charleville et de Mézières, bien entendu. Et c'est vrai que y a eu quand même quelques difficultés ces derniers jours qui ne sont pas au niveau de ce qu'on a connu en région parisienne ou dans les grandes villes de France. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui se sont, entre guillemets, révoltés, qui ont cassé, qui ont brûlé. Et bien entendu, je condamne fermement tous ces gestes, et notamment tous les gestes de violence qui ont été aussi réalisés à l'égard de nos forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, que je soutiens bien entendu à 100%, vous l'imaginez bien.
Alors les rencontres, Pierre Cordier, vous les faites sur le terrain, auprès des citoyens évidemment, mais aussi auprès des élus. On vous a vu notamment hier midi soutenir les maires du département parce qu'il y avait un rassemblement qui était organisé à l'initiative de l'Association des maires de France.
Oui, il y avait un rassemblement qui était organisé devant les mairies, non pas seulement pour monter au créneau pour défendre les élus, même si ce qui s'est passé à la Île-et-Rose en région parisienne nous a énormément marqué, avec la famille de Vincent Jeanbrun, bien sûr, mais c'était aussi, moi, les gens que j'ai rencontrés à Revin, il y avait des élus, mais pas seulement, des commerçants, des retraités, c'était pas seulement pour défendre les élus, c'était aussi pour monter au créneau et montrer notre mécontentement à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui et de finalement de cette révolte que l'on comprend mal aujourd'hui, parce que quand on voit les fonds qui sont dépensés aujourd'hui et depuis une quarantaine d'années, finalement, on se rend compte que toutes ces politiques publiques, ben, finalement, n'ont pas satisfait les gens qui habitent dans les quartiers, pas tous, heureusement. Il y a aussi des citoyens qui sont très tristes de voir leur voiture brûlée en bas de chez eux, leur cage d'escalier abîmée, les espaces verts brûlés, etc. Voilà, c'est un constat finalement que l'on peut faire tous. Mais voilà, moi j'étais présent à Revin, je suis allé aussi samedi matin rencontrer le commissaire de police à Charleville et son adjoint, ainsi que les hommes qui sont sur le terrain la nuit, enfin ceux qui étaient là, puisque bien entendu ils avaient passé une nuit difficile de vendredi à samedi et je n'ai rencontré que quelques-uns, mais sachez qu'ils ont été aussi très marqués par ce qui se passe et moi je veux vraiment leur faire part de ma solidarité et de mon soutien total par rapport à ce qu'ils ont subi sur les quartiers de Charleville-Mézières et même un petit peu à Revin de manière moins importante, mais malgré tout importante.
Évidemment, le message est bien passé auprès de nos auditeurs sur l'antenne de RCF. Pierre Cordier, toutes ces rencontres que vous faites sur le terrain, j'allais dire au quotidien, c'est un constat que vous partagez, on imagine, avec vos collègues députés à l'Assemblée nationale quand vous vous retrouvez en région parisienne. Quel est le climat aujourd'hui à l'Assemblée nationale par rapport à toutes ces affaires ?
Écoutez, au niveau du groupe Les Républicains, en tout cas, mené par Olivier Marleix et notre président Éric Ciotti, on va tous dans la même ligne et tous dans le même sens, si vous me passez l'expression, parce que ce constat, on le fait dans toute la France. Et sachez que, bien entendu, et moi je ne veux pas retirer de part de responsabilité à qui que ce soit, quand je dis depuis 40 ans, il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ce qui a été fait, les gouvernements se sont succédés de gauche et de droite, de François Mitterrand à Emmanuel Macron aujourd'hui, qui, je le rappelle, est au pouvoir quand même depuis 6 ans, et on ne comptera même pas les années où il a travaillé avec François Hollande. Donc c'est facile aussi de faire des constats dans l'hémicycle et de nous dire « Ah ben oui, on va faire mieux, etc. » Emmanuel Macron est aux affaires depuis 6 ans et la situation ne s'est pas améliorée, Donc il nous a prôné il y a 2 mois ces fameux 100 jours en disant qu'il fallait de l'apaisement, il fallait que la nation se reconstruise après le débat sur les retraites. Je suis quand même très inquiet parce que ces 100 jours, ils ressemblent un peu à ceux de Napoléon Bonaparte à la fin de son règne. Et en réalité, ces 100 jours, c'est un échec total et que je crois aujourd'hui qu'au-delà du constat, il faut aussi faire des propositions. Et bien entendu, notre groupe, Les Républicains et apparentés, va en faire parce que nous sommes une formation politique responsable, une formation politique de gouvernement. Et donc, moi, j'entends aussi prendre toute ma part, faire les constats, mais aussi faire des propositions qui devront être, à mon avis, un petit peu radicales par rapport à ce que nous venons de vivre aujourd'hui parce que nos concitoyens n'en peuvent plus.
J'allais dire, en tant que député, avec vos collègues à l'Assemblée nationale, vous allez devoir légiférer, certainement faire des propositions de loi. Pierre Cordier, tout cela, ça prend du temps, le temps de réfléchir, j'allais dire, aux bonnes solutions, si tant est qu'il y en ait une. Mais là, il faut aussi agir dans l'urgence. Concrètement, aujourd'hui, vous, de votre position de député, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour peut-être essayer de faire bouger les lignes, Pierre Cordier ?
Ben, écoutez, je crois en tous les cas que les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, vont devoir prendre leurs responsabilités. Depuis 30 ans, dans ce pays, on a dépensé 100 milliards d'euros dans la rénovation urbaine des quartiers. Et d'ailleurs, dans les Ardennes, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur le quartier de la Roncouture, sur le quartier de la Houillère, mais également à Reims et dans les villes de la région Champagne-Ardennes. Pour quels résultats aujourd'hui on se pose la question. Moi, je pense que le maître mot qu'il faut remettre, j'allais dire un petit peu d'actualité, même s'il est considéré comme certains comme un mot un peu has-been et un mot réactionnaire, c'est le mot autorité, que ce soit au sein de la cellule familiale, que ce soit à l'école, que ce soit en direction de la police, de la justice et des élus locaux aussi. L'autorité, c'est ça qui permet à chacune et chacun de vivre et de vivre correctement dans une société en se respectant. Et celui qui ne respecte pas l'autre, eh bien, il y a la peur, ce qu'on disait avant, la peur du gendarme, c'est peut-être une expression un petit peu ancienne également, mais quand il y avait la peur du gendarme, eh bien, il y avait une forme de respect de l'autorité. l'autorité aujourd'hui, parce que le respect de l'autorité, c'est le bien vivre en société, avec des règles, ces règles doivent être respectées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prononce ces mots à l'égard de la France insoumise ou de certaines formations d'extrême gauche, eh bien on est considéré comme des réactionnaires ou des fascistes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité au sein de la famille, que l'autorité et le respect du monde de l'enseignement, aussi des forces de police, de gendarmerie et de la justice, ça me paraît être un élément fondamental pour vivre correctement en société et respecter les autres. Si on n'est pas prêt à respecter l'autorité et à se respecter les uns les autres, ça va très très mal finir, et on vient de le voir cette dernière semaine. Moi, je suis atterré de ce que j'ai constaté sur le terrain, et à un moment ou à un autre, il faut aussi rééquilibrer les choses, parce que les habitants dans nos zones rurales nous disent, vous avez fait beaucoup pour les villes, nous, on n'a rien, alors qu'on bénéficie aussi de conditions de vie qui ne sont pas toujours idéales, et je crois qu'il faudra aussi faire quelque chose pour eux, parce que nos concitoyens sont aussi très fatigués et lassés de voir qu'on met des milliards d'euros et qu'il n'y a pas de résultat derrière.
Merci Pierre Cordier d'avoir pris dans ce contexte tendu quelques minutes pour nous répondre et expliquer votre position aux auditeurs de RCF France-Ardennes. On vous laisse retourner dans l'hémicycle, travailler avec vos collègues députés. Pierre Cordier, juste rappeler à nos auditeurs qu'on vous retrouve aussi en circonscription, parce que c'est là d'où vous êtes, des Ardennes, et on vous retrouve régulièrement sur le terrain.
Merci à vous.
À très bientôt Pierre Cordier, merci beaucoup. 18h31, on a pris une petite minute de retard ce soir dans ce magazine régional, c'est l'heure du journal. Avec les titres de ce mardi 4 juillet, mardi dernier, une convention de mise à disposition d'un logement pour mettre à l'abri des victimes de violences conjugales a été signée par l'État, le CIDFF de la Marne et le CCAS de Sermaise-les-Bains. Chaque année, de plus en plus de victimes, femmes et hommes, sont dénombrées par les services judiciaires. Dans les Ardennes, à Mazerny, au domaine des Loches, deux gîtes de grande capacité ont été inaugurés en fin de semaine dernière. Une nouvelle offre touristique sur le territoire qui a été accompagnée par les collectivités locales, dont la communauté de communes des Crêtes Préardennaises.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant de développer ces titres dans le journal, et on vous le disait dans les titres du magazine régional, l'actualité de la journée, ce sont les résultats du baccalauréat 2023 tombés ce matin. Dans toute la France, le taux d'admis au premier tour est de 84,9%, en léger recul par rapport à 2022, même si le fait de cumuler de plus en plus d'épreuves en contrôle continu, qui compte pour 40% du score final, et de connaître la plupart des notes à l'avance, minimise la surprise du sort réservé aux élèves. La joie de décrocher le fameux sésame reste la même.
Oui, je l'ai eu. Mention très bien.
Mention, assez bien. Je m'attendais à l'avoir, donc ça va.
Bah, mention assez bien, bah, content. Je voulais la mention bien, mais ça allait jouer à quelques points près, mais là, je suis quand même content. J'avais déjà fait les calculs et je pouvais l'avoir. Je l'avais même en ayant 0 et 0 au grand oral et à la philo, donc je suis content.
Ouais, je m'y attendais un peu avec les spé, etc. Il n'y avait pas un peu la surprise de est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, parce que grâce aux spé, ça donne beaucoup de points d'avance.
Bah, mention bien. J'aurais jamais eu mention très bien, mais je suis très très contente.
Mention bien. Le grand oral, ça s'est très bien passé, donc je me suis dit c'est bon, c'est dans la poche, quoi. Bah, là, j'ai prévenu mes parents en premier.
Mention bien. Et attendu, le simulateur a dit la même chose. C'est très très bien comme ça. C'était plus Parcoursup qui me stressait, mais comme j'ai les deux, c'est bénef. J'ai envoyé un message sur le groupe où il y a mes deux parents, comme ça, il n'y a pas de préférence. Puis après, j'appelle les autres séparément.
Et mention bien.
M'en sors bien.
J'avais 14 et 18 aux premières épreuves, donc j'étais plutôt serein.
Mention assez bien pour moi. Ouais, je m'y attendais, j'avais calculé mes notes, donc ça me va, la mention assez bien. Les premières épreuves, c'était bien passé, les épreuves de spécialité. Donc pour la philosophie et le grand oral, j'y suis allé un peu plus tranquille.
En soi, presque tout le monde l'a le bac, donc c'est pas si incroyable que ça. Donc.
Moi, j'ai les félicitations du jury. C'était possible. Mais c'était pas probable, donc c'est super cool.
Mention très bien du coup. Bon, je m'y attendais un peu, fallait que j'ai 11 aux deux épreuves, donc ça allait, c'était sécurisé.
La plupart découvrent les résultats entre amis et communiquent ensuite les résultats à leur famille.
Je viens de manquer un appel de ma mère. Oui maman, je suis avec RCF au micro là.
Moi, je te félicite, je suis bien fière de toi ma chérie.
Merci beaucoup.
Des propos recueillis par Luca Mastroilo. Luca, vous y étiez sur place. Toujours des moments de joie, on imagine, vous qui avez passé le bac il n'y a pas si longtemps. Ça vous rappelle quelques souvenirs ?
Oui, ça fait toujours plaisir de voir les bacheliers exploser de joie comme ça, même si
On en voit certains qui doivent passer au rattrapage et on leur souhaite bon courage et bonne chance.
Effectivement, les félicitations à ceux déjà admis et effectivement bon courage à tous ceux qui vont donc au deuxième groupe dans l'Académie de Reims. 82,5% des candidats sont reçus dès aujourd'hui contre 86% en 2022. Champagne Parc Auto, au bord de la faillite, le Grand Reims doit remettre au capital plus de 2 millions d'euros pour permettre à CPA de survivre. Jean-Pierre Fortuné a déploré une mauvaise gestion qui amène la structure tout près du dépôt de bilan. Selon nos confrères de l'Union qui nous informent aussi que le service de tramway continue dans ce contexte de violence urbaine d'être réduit jusqu'au 16 juillet inclus, notamment en soirée. Flashback sur mardi dernier. En milieu de matinée, les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et du conseil municipal de Sermaize-les-Bains se sont réunis dans le Grand Saleur pour assister à la signature d'une convention entre l'État, le CIDFF de la Marne et le CCAS. Cette convention permet la mise à disposition d'un logement pour mettre à l'abri des victimes de violences conjugales. Saïd Yacoubi, maire, président du CCAS.
On vient de signer la convention avec le CDFFF pour les violences conjugales et sexistes. Donc nous sommes heureux d'avoir fait cette signature parce qu'il y a un an en arrière, la convention c'était expérimentale, mais là c'est la convention finale. J'en suis très fier et je tiens quand même à mettre en honneur aussi les membres du conseil d'administration du CCAS qui ont été d'accord pour mener ce projet-là à terme.
Pour Michel Fantova, président du CIDFF de la Marne, les logements mis à disposition sont plus qu'importants.
La première chose, pouvoir proposer à des femmes victimes de violences conjugales dans leur foyer une mise à l'abri. C'est nécessaire, en ce sens où nombre de femmes tombent encore aujourd'hui sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a une mise en sécurité nécessaire et nous travaillons depuis 2 ans avec la commune de Sermaize-les-Bains qui nous met gracieusement par le biais du CCAS un appartement à disposition nous permettant de loger ces femmes victimes de violences. Il y a des femmes qui vont se succéder en fonction de l'évolution de leur situation, en sachant qu'actuellement, pour le CIDFF de la Marne, c'est 2 appartements que nous gérons. Bien entendu, le SIAO et le club de prévention aussi d'Épernay proposent ce type de service sur d'autres endroits. L'idée, c'est toujours d'avoir un appartement occupé, bien entendu, parce que les besoins existent sur le territoire.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet sur place à Sermaize-les-Bains. Par la même occasion, le sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François, Djilali Gerza, avait également précisé le soutien financier de l'État. Direction Mazerny, dans la communauté de communes des Crêtes Préardennaises et plus précisément au domaine des Loches, à l'écart du village, vendredi dernier, y ont été inaugurés 2 gîtes de 8 et 15 places, labellisés Gîtes de France et Clé Vacances, avec une spécificité, la réservation de groupe, une nouvelle offre touristique adapté au lieu, Yvan Lefebvre, copropriétaire des gîtes.
On s'est déjà interrogé de savoir quelle destination on donnait à la partie bâtie. Après, quand on a choisi de développer ça pour faire de l'hébergement touristique, il fallait se déterminer sur la typologie de l'hébergement. Avec les conseils des uns des autres, et notamment d'un architecte qui m'a dit que un bâtiment, ça avait une âme et il fallait pas non plus détruire l'âme d'un bâtiment. On a fait le choix de conserver un peu la structure du bâtiment existant et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers du gîte de grande capacité pour pas dénaturer le bâtiment lui-même.
Un site qui a connu bien des transformations dont se réjouit Daniel Thomas, maire de Mondigny, mais aussi premier vice-président de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, native du domaine des Loches à Mazerny.
Je suis très heureux de voir ce site évoluer comme il a évolué, parce que ça lui rend de la valeur, et puis il est géré par des personnes qui sont très sympathiques et qui œuvrent pour le tourisme en Ardennes. Le tourisme en Ardennes est quelque chose de peu connu il y a 10 années encore, et qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience que le tourisme est une raison économique.
Une implantation au domaine des Loches qui a tout de suite paru évidente pour Yvan Lefebvre.
En fait, au départ, j'étais à la recherche d'une structure pour faire justement de l'élevage de chevaux et de la prise en pension de chevaux. Et le nord des Ardennes s'y prête très bien puisqu'on est sur des terres à vocation herbagère. Et puis, c'est un peu en visitant en venant visiter le site que je suis un petit peu tombé sous le charme. Au niveau des herbages, le projet, il était un petit peu déjà calé. Je savais vraiment ce que je voulais faire, donc c'était de la valorisation de surface en herbe pour prendre des chevaux en pension. Et puis après, effectivement, fallait trouver l'utilisation pour le reste du patrimoine.
Un projet qui a été porté par Yvan Lefebvre, son frère et sa sœur, qui entre l'acquisition et les travaux a coûté plusieurs millions d'euros. Mais ils ont été accompagnés par les crêtes préardennaises à hauteur de 5000 euros par gîte et par le programme Leader. Désormais, place aux réservations. Vous en découvrirez plus demain soir avec Yvan Lefebvre et Daniel Thomas qui seront nos invités de ce magazine régional entre 18h10 et 18h30. En sport, les joueurs du Stade de Reims étaient de retour au centre de vie Raymond Coppa pour préparer la saison 2023-2024. Au programme, les tests physiques et médicaux. Première séance d'entraînement collectif prévue jeudi. On vous en donnera des nouvelles. L'actu football, c'est aussi le club sportif Sedan Ardennes. Son passage en appel devant la DNCG n'a pas donné lieu aux résultats espérés par le président Marc Dubois. Le gendarme financier du football a infirmé la relégation en National 2 prononcée en première instance. Faute de fonds nécessaires pour provisionner la saison 2023-2024, le CSSA est exclu de tous les championnats nationaux. Sedan devrait repartir de Régional 1 s'ils viennent à reprendre, soit la 6e division française. L'homme fort du club n'a pour le moment pas réagi à cette nouvelle annonce. Côté supporters, on réclame le départ de Marc Dubois, ce qui pourrait entraîner un nouveau dépôt de bilan 10 ans après celui subi lors du départ de Pascal Urano. À 18h40, avant de refermer ce journal, place à la page météo. Et c'est avec Raphaël Feillot. Quel temps pour ce mercredi en Champagne-Ardenne, Raphaël?
Alors Alexis, demain, mercredi 5 juillet, sera à nouveau parsemé de soleil. Les moyennes matinales seront d'environ 15 degrés comme à Vitry-le-François, Langres ou encore Reims. Pendant l'après-midi, mis à part quelques rares averses en Champagne et en Ardennes, le soleil sera toujours présent. La température augmentera jusqu'aux 21 degrés environ, comme à Chaumont et Châlons-en-Champagne, mis à part à Charleville-Mézières où il fera 18 degrés. Sinon, demain, ce sera la Saint-Antoine. Bonne fête à eux.
Merci, c'était synthétique. Une très bonne fête à tous les Antoine. Merci, Raphaël. On vous retrouve tout au long de la semaine pour les tendances. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et ce que l'on va faire désormais, c'est directement un zoom sur l'association Art et Foi avec Annick Demuy qui n'est pas venue seule en studio. À ses côtés se tient Jean-Luc Gesson pour évoquer les vitraux de Chagall, le tout au micro de Jean-Pierre Benoît.
Annick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Jean-Luc Gesson, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est un duo aujourd'hui avec nous sur RCF. D'abord Annick Demuy, vous étiez venue il y a quelques jours pour nous présenter à la cathédrale de Reims avec Art et Foi des visites à thème. Elles vont donc se poursuivre au mois de juillet.
Tout à fait. Elles vont se poursuivre tout l'été.
Et au mois d'août.
Voilà, en juillet, en août et même un peu en septembre pour la dernière. Donc un programme de 5 visites à thème qui peuvent intéresser tant les Rémois que nos amis touristes qui viennent découvrir le monument.
Et ça a vraiment eu du succès. Hein. La dernière fois, oui. Sur la façade de la cathédrale, c'était le 9 juin, il y avait quand même quelques personnes, enfin il y avait du monde.
Tout à fait.
Alors que va-t-il se passer? C'est dans quelques jours, c'est le 7 juillet, c'est toujours un vendredi, c'est à 14h30. Qu'est-ce que vous nous présentez avec Art et Foi?
Alors cette fois, Art et Foi va vous présenter les vitraux de Chagall avec un des membres actifs de notre association Art et Foi, Jean-Luc Gesson, qui nous a fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui pour parler du vitrail de Chagall.
Jean-Luc Gesson, pourquoi vous faites partie de ce groupe Art et Foi qui essaye sur la cathédrale de nous faire mieux comprendre à la foi? Bah oui, l'art et la foi.
Pour moi, c'est une entreprise qui a commencé il y a déjà une vingtaine d'années. J'ai passé donc de nombreuses heures à accueillir des touristes de toutes origines. Mon anglais un peu balbutiant me permet quand même de communiquer avec pas mal d'étrangers qui sont heureux d'entendre un certain discours sur le sens chrétien de l'Église qu'ils visitent.
Alors justement, à la cathédrale, il y a beaucoup de choses à voir. Annick Demuy nous parlait de la façade, on peut parler de la Vierge dans la cathédrale, on peut parler de la façade nord du transept qui seront l'objet d'autres conférences. Mais là, avec vous, vendredi 7 juillet à 14h30, vendredi prochain, ce sont les vitraux de Chagall. Vous êtes vous-même attiré par Chagall?
Absolument. Un peu à cause de la cathédrale, justement. Je dirais que j'ai découvert Chagall, que je ne connaissais que très peu et pour lequel je n'avais pas d'attraction particulière, parce qu'il y a ces trois fenêtres qu'il a offert à la cathédrale dans les années qui ont été posées en 1974, bientôt 50 ans déjà. Hein. C'est à cause de cette cathédrale que je me suis intéressé à lui et que j'ai eu de nombreuses occasions d'aller passer du temps. Hein. Je disais parfois, un peu comme Claudel, contempler pendant des heures, paraît-il, la verrière de Chartres. Eh bien moi, c'est la verrière, les verrières, les trois fenêtres de Chagall qui m'ont toujours attiré.
Et pour vous, regarder ces vitraux, c'est aussi un moment aussi d'entrer peut-être dans une forme d'intériorité. Votre esprit, s'en va dans d'autres univers.
Absolument, absolument. J'ai constaté que à la fois il y avait pour beaucoup une attraction immédiate pour ces teintes bleutées qui sont visibles au fond de notre édifice, dans la chapelle axiale, et puis en même temps un petit peu déçu par le fait que lorsque j'étais assis devant ces verrières, eh bien je constatais que malgré la présence d'un panneau explicatif qui est très bien fait, hein, eh bien le passage était souvent extrêmement rapide et ne permettait pas de découvrir un peu en profondeur ce que Chagall avait voulu dire, en fin de compte, aux chrétiens et aux visiteurs.
Justement, Jean-Louis Gesson, le 7 juillet à 14h30, vous allez nous aider à comprendre. Moi-même, d'ailleurs, si je suis disponible à 14h30, je viens vous voir. Hein. Et les auditrices
heureux.
Et les auditeurs de RCF peuvent venir. Alors, en avant-première.
Vous êtes tous les bienvenus.
C'est vrai, on ira. Mais alors, Jean-Louis Gesson, nous, on veut quand même savoir. On se dit, que va dire Jean-Louis Gesson vendredi? Alors, bon, en 3-4 minutes qui nous restent, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous pouvez donner quand même quelques thèmes.
Bien
qu'est-ce qu'il faut retenir quand on regarde ces vitraux? Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
Bien sûr. D'abord, il faut peut-être dépasser la simple contemplation d'une œuvre qui est, sur le plan des coloris, absolument magnifique. La douceur de ces teintes. Mais il y a un message aussi hein, que Chagall a écrit. C'est un vitrail qui est historié, qui raconte quelque chose. Et cette histoire que raconte Chagall, en fin de compte, c'est la grande histoire de la révélation, du lien entre Dieu et les hommes, à travers, d'abord, pour Chagall qui était juif, l'héritage, si on peut dire, biblique, hébraïque, hein, et puis la dimension chrétienne, qui n'a pas éludé, bien au contraire, hein, il montre, et c'est ça qui m'intéresse dans ces trois vitraux, ces trois verrières, il montre l'étroite intrication, si on peut dire, qu'il y a entre ce qu'il portait en lui, en tant que juif, et ce que l'Église porte aujourd'hui. Hein.
Alors ces trois vitraux, est-ce qu'ils sont indépendants les uns des autres, ou est-ce que chacun décrit une partie de la chronologie?
D'accord.
Et pourquoi trois vitraux?
Alors,
le nombre trois, bon, on imagine.
Oui. Il y avait trois fenêtres, de toute façon.
Oui, il y avait trois fenêtres.
Il était tenu par les nécessités architecturales, disons. Mais en plus, je pense qu'il y a un étroit entre les deux verrières de gauche et centrale, et une dimension un petit peu différente pour la troisième. La troisième est consacrée plutôt à l'histoire de Reims et de des rois, des sacres, etc. Mais les deux vitraux, les deux autres fenêtres, parle de cette révélation progressive qui s'est faite à travers les prophètes, à travers les grands personnages de la Bible hébraïque.
Alors Jean-Luc Gesson, quelques clés, on regarde ça, on s'assoit, on n'y comprend rien, on voit les bleus, on est ébloui peut-être par une forme d'intériorité, mais les clés, qu'est-ce qu'il faut voir tout de suite d'après vous pour déchiffrer un peu?
Je pense que dans le vitrail, la partie centrale, la partie haute, montre un Christ en croix, et que c'est un aboutissement dont on peut être un petit peu même surpris de la part d'un artiste juif. Et c'est ça, tout conduit à la révélation ultime et à la rédemption de l'humanité par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et cela me semble important. Jean-Marie Guerlain, quelque part, dit dans un petit livre qu'il avait publié, je crois qu'il est épuisé aujourd'hui, hein, que ces vitraux sont un signe fort du dialogue judéo-chrétien, du lien étroit qui existe entre les deux alliances, l'ancienne alliance hébraïque et puis l'alliance nouvelle hein, de Jésus, proposée par Jésus. Et je crois que c'est très fort. Et pour moi, c'est un thème très important.
Et ça apparaît dans les vitraux.
Absolument.
Et Marie occupe aussi une place importante dans ces deux verrières.
où elle est présente deux fois auprès du Christ, mais également sur la fenêtre de gauche avec une représentation absolument magnifique.
Il faudrait une émission beaucoup plus longue parce qu'on arrive presque au terme de notre entretien d'aujourd'hui.
Il faut venir vendredi.
Il faut venir vendredi déjà, et puis peut-être faire une série d'émissions un peu plus approfondies avec vous, Annick Demuy, Jean-Luc Gesson. On prend le temps de découvrir. C'est simplement aujourd'hui une introduction. C'est une mise en bouche, c'est une entrée avant de nous retrouver. Donc, on rappelle le rendez-vous, Jean-Luc Gesson. C'est vendredi.
14h30, avec le petit regret que c'est le moment où la lumière est très forte et où il y a un petit risque de pollution visuelle par la clarté très vive des vitraux qui encadrent des deux chapelles latérales qui encadrent ce spectacle magnifique.
Eh bien, merci à vous et à bientôt sur RCF.
Merci Jean-Pierre,
merci
à bientôt.
Jean-Pierre.
Merci Annick Demuy, Jean-Luc Gesson, merci aussi Jean-Pierre Benoît. Évidemment, on vous retrouvera demain aux manettes d'un magazine régional où vous recevrez notamment Marie-Dominique Bride pour partager un témoignage d'espérance.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour ceux qui s'attendaient à ce que l'on parle du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, parce qu'on a pris un petit peu de retard ce soir, on le diffusera à l'occasion d'une autre émission, ce témoignage à cette chronique. Mais maintenant que les élèves en terminale ont pu découvrir aujourd'hui les résultats du baccalauréat, il faut désormais penser à la suite si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'évidemment, pour les plus organisés, peut-être qu'ils sont déjà certains de ce qu'ils vont faire à la rentrée prochaine. Mais sachez qu'en septembre 2023, Almea Formation Interpro s'associe avec le Centre National d'Enseignement à Distance et propose 15 nouveaux BTS au sein de ces Digital Academy. Virginie Jamard, responsable du dispositif Digital Academy, est au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten.
Virginie Jamard, bonjour.
Bonjour.
Avant de revenir sur les nouveaux BTS présentés par les Digital Academy de notre territoire Champagne-Ardenne, est-ce qu'on peut faire un petit récap à nos auditeurs ce que signifie la Digital Academy ?
C'est une mise à disposition d'un lieu pour suivre des cours à distance. Les jeunes sont inscrits sur des centres de formation à distance ou sur des universités qui proposent des cours à distance, mais ils viennent suivre leur formation sur notre structure. Et nous les encadrons, nous les coachons tout au long de la formation pour les aider à réussir leur formation.
Et il y a plusieurs Digital Academy sur le territoire.
Oui, il y a plusieurs Digital Academy. Donc, elle existe à Chalon depuis 2019, à Charleville également depuis 2019, Soissons depuis 2021, Romilly 2022 et bientôt Surlon en 2023, à la rentrée 2023.
Les nouveaux BTS à la rentrée de septembre, pourquoi vous lancez dans de nouveaux BTS ? C'était une demande forte des étudiants ?
Alors c'est une demande des étudiants parce que sur le territoire il n'y a pas forcément les formations disponibles et ces BTS-là ne sont pas tous disponibles sur le territoire, ce qui oblige les jeunes à s'éloigner du territoire pour poursuivre leurs études et ça n'est pas toujours évident pour eux, c'est un coût supplémentaire au niveau de l'argent puisqu'il faut pouvoir se déplacer ou alors trouver un logement. Donc nous proposons à partir de la rentrée 15 nouveaux BTS en apprentissage et en distanciel.
Alors, quels sont ces BTS ?
Alors, il y a le BTS communication, le BTS comptabilité gestion, économie sociale et familiale, tout ce qui est commerce, donc le commerce international, le management commerce opérationnel ou encore la négociation client. Il y a aussi la gestion de la PME, les services informatiques aux organisations, la cybersécurité, le BTS diététique, le BTS collaborateur juriste notarial, le BTS plus administratif support à l'action managériale et services et prestations du secteur sanitaire et social.
Donc 15 nouveaux BTS,
15 nouveaux BTS
pour la rentrée de septembre dans tous les Digital Academy.
Dans toutes les Digital Academy portées par Almea.
Qui vont accompagner par les BTS et les formations actuelles que vous proposez. Est-ce qu'on peut refaire brièvement la liste de ce que vous proposez ?
Oui. Donc nous proposons bien d'autres formations. Cela va des formations niveau bac aux licences, master, les préparations de concours comme le TOEIC ou les concours administratifs. Voilà, les différents graduates, les bachelors, toutes les formations possibles à distance, les jeunes peuvent les suivre sur la Digital Academy.
Virginie Jama, coordinatrice des Digital Academy du territoire Champagne-Ardenne. Encore Champagne-Ardenne, je dirais même un petit peu de laine parce qu'on a Soissons avec nous. Et puis responsable donc du site Digital Academy de Châlons-Champagne aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ces nouveaux BTS qui seront proposés aux étudiants des Digital Academy en septembre 2023. Alors un étudiant aujourd'hui nous écoute, entend cette information-là, se dit « Ah, pourquoi pas ? Moi, l'école, c'est pas trop mon truc. J'aimerais bien faire, voilà, pourquoi pas, des études à distance, être accompagné par les Digital Academy. Comment faire ?»
Alors, il suffit de se connecter sur Internet, sur le site Almea, et de remplir une petite fiche de contact, ou tout simplement de me téléphoner. On peut convenir aussitôt d'un rendez-vous, pour que je puisse recevoir le jeune sur Châlons. Après, sur les autres territoires, il suffit d'appeler mes collègues sur les autres territoires. Et nous voyons ensemble quelle est la formation la plus adaptée pour lui. Et il est possible de s'inscrire dès aujourd'hui pour la rentrée de septembre.
Alors, aujourd'hui, on peut s'inscrire, on rencontre le responsable de la Digital Academy, on fait un point sur la situation, sur ce qu'il recherche, etc.
C'est ça.
Et par la suite ?
Alors, par la suite, si le jeune souhaite suivre un BTS en apprentissage, il faut évidemment qu'il trouve un employeur. Nous sommes là pour l'aider à trouver des employeurs. Nous avons aussi quelques annonces d'employeurs qui cherchent des apprentis. Et pour toute autre formation, il suffit de nous contacter, de venir. Nous aidons à l'inscription au niveau des centres de formation, au niveau des universités qui proposent les formations à distance. Et puis, une fois le jeune inscrit, il pourra effectuer sa rentrée dès le mois de septembre dans les locaux de la Digital Academy.
Donc, tout au long de la saison scolaire, à partir de septembre, il y a un local à Châlons, il y a un local à Charleville-Mézières, à Soissons, à Romilly-sur-Seine.
Oui, c'est ça.
Il est accompagné.
Il est accompagné. Donc, il y a des coachs qui sont là pour accompagner les jeunes au niveau administratif, au niveau méthodologique et tout au long de la formation pour l'accompagner, le soutenir et faire en sorte qu'il réussisse sa formation.
Comment choisissez-vous ces personnes qui accompagnent ces étudiants ? Ah, la question piège.
Déjà, il faut aimer travailler avec les jeunes.
Oui.
Les soutenir et puis avoir envie qu'ils réussissent, tout simplement. C'est vraiment du coaching et on les accompagne au quotidien et on a envie qu'ils réussissent, donc on fera tout pour qu'ils réussissent.
Ça représente combien de jeunes, par exemple, si on prend l'exemple, puisque vous êtes responsable de la Digital Academy de Châlons-Champagne, ça représente combien de jeunes au sein de cette structure?
Alors, nous avons accompagné cette année à peu près 25 jeunes.
Oui.
Et nous pouvons en accueillir un petit peu plus sur l'année à venir.
Et ça représente combien de personnes qui accompagnent ces 25?
Nous serons trois avec une alternante.
D'accord. Donc trois personnes dans un espace, un genre d'open space?
Un open space, tout à fait. Nous mettons à disposition des ordinateurs, des casques, des bureaux. Et chacun s'installe et travaille à son rythme. Et nous sommes là en continu, nous sommes là toujours avec les jeunes.
Alors, pour être coordonné entre la personne qui accompagne et l'étudiant, il y a un emploi du temps bien défini à la rentrée?
Oui, alors chacun a un emploi du temps individuel. Nous mettons en place un emploi du temps individuel avec chaque jeune. Chaque jeune a un emploi du temps personnalisé. Et nous adaptons aux impératifs des jeunes. Si un jeune a un petit job étudiant à côté, si un jeune a besoin d'être libre à tel ou tel moment, nous adaptons son emploi du temps. Donc c'est vraiment un emploi du temps personnalisé et adapté à chacun.
Alors le site de Châlons-Champagne et de Charleville-Mézières a sa Digital Academy depuis maintenant 4 ans.
Oui, c'est ça.
Quel retour faites-vous ?
Alors un très bon retour puisque donc là cette année nous n'avons pas encore tous les résultats de tous les examens, mais sur l'an dernier la réussite est de l'ordre de 85% sur l'ensemble des Digital Academy. Sur les cas Digital Academy, donc ce qui est un très bon chiffre, puisque comparativement à des résultats de jeunes qui suivent une formation à distance sans être accompagnés, la réussite est de l'ordre de 10 à 20%. Donc on voit la plus-value de l'accompagnement.
En tout cas, bravo pour cette initiative et ce beau projet que vous menez donc depuis de nombreuses années et qui va se poursuivre avec 15 nouveaux BTS à la rentrée de septembre dans l'ensemble des Digital Academy du territoire Champagne-Ardenne et de Soissons. Merci beaucoup Virginie Jama d'avoir pris ces quelques minutes avant de nous quitter. Vous voulez dire quelque
oui,
chose?
Oui, je voulais juste rappeler que notre accompagnement était totalement gratuit. Et ça, c'est important. Un jeune qui souhaite suivre un apprentissage, pour lui, la formation sera totalement gratuite puisqu'elle est prise, elle sera prise en charge par l'employeur.
Très bien de le souligner.
Voilà. Et notre accompagnement est totalement gratuit pour le jeune. Voilà. Donc ça, c'est important aussi.
Très bonne information complémentaire. Merci beaucoup, Virginie Jama, coordinatrice des Digital Academy et responsable du site de Châlons en Champagne. À très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Merci, Virginie Jama, Christopher Fausten. Pour plus d'informations, rendez-vous dès à présent sur le site digital-academy.org. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne. On se retrouve demain avec Marie-Dominique Bride pour un témoignage exceptionnel. On ira également du côté du domaine des Loches à Mazerny avec Yvan Lefebvre et Daniel Thomas. Et on fera une rencontre avec notre stagiaire à la rédaction, Raphaël Feillot, qui est resté avec nous ce soir jusqu'au bout du bout. Bonne soirée, Raphaël, à demain.
À demain.
Et Luca, on vous dit aussi à demain. Je ne sais pas si on va vous retrouver dans les programmes demain en local.
Pas demain, plutôt jeudi.
Ah, vous faites grève, vous?
Ah oui, c'est la grève.
C'est la grève ou c'est les vacances, on ne sait pas trop. Peut-être que vous profiterez du soleil. En tout cas, à tous nos auditeurs, une bonne soirée. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde. Dans quelques instants, l'information nationale avec le réseau RCF. Et puis vos programmes locaux reviennent à partir de 19h12. L'information en local, c'est à partir de 7h demain matin sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne.